Bonjour et bienvenue sur le podcast de la question noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâtons rompus et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré, à la radicalité assumée. La question noire. Le podcast. Pour cet épisode, la conversation sera animée par
Sadio,
Amel,
Norman Ajari,
Claude,
Masala,
Ikossi.
Depuis mars 2020, le monde vit au rythme de la crise du Covid-19, des reprises épidémiques et de l'apparition de nouveaux variants. La santé est redevenue une préoccupation politique majeure pour les gouvernants comme pour les gouvernés. La pandémie du Covid-19 a aussi mis en lumière un ensemble de phénomènes révélateurs de la place des populations noires diasporiques dans les sociétés qu'elles habitent, mais aussi des relations qu'entretiennent les pays du monde avec les pays africains noirs et leurs populations. On peut citer notamment l'exploitation accrue, mais peu médiatisée, des travailleurs noirs qui constituent une proportion importante des employés des secteurs dits essentiels. Leur surexposition au virus, la difficulté d'accès au traitement et la surmentalité chez nos communautés. On a également constaté les fantasmes qu'a pu susciter la faible pénétration du virus en Afrique, étant donné que pour l'observateur non africain, dans la culture occidentale négrophobe, l'Afrique est le territoire du pire des épidémies, le lieu où tout phénomène mortel est censé être aggravé. La défiance des communautés africaines vis-à-vis des politiques publiques de santé est la conséquence d'au moins 4 siècles de médecine moderne occidentale négrophobe, dont la mémoire est toujours vive chez les Africains du continent et de la diaspora. Dans cette émission, nous allons essayer d'explorer ces thèmes, de revisiter cet épisode récent et d'ailleurs inachevé d'un point de vue communautaire afro-diasporique, et ce, à l'aune de l'histoire des relations qu'ont entretenues les populations africaines du continent et de sa diaspora à la médecine moderne occidentale.
Dans la première partie de notre conversation, on s'est plutôt concentré sur la période du Covid, ses conséquences et ses antécédents. Dans cette deuxième partie, nous avons essayé d'élargir un peu la question en s'interrogeant sur la pratique de la médecine, sa colonialité et les possibilités de réponse pratique et politique à cet état de fait.
Du coup, moi, je voulais revenir sur un truc. Je sais que lors de du premier podcast, on en avait parlé, lorsqu'on parlait des expériences ressenties du racisme de notre communauté. Et moi, j'ai grandi avec des femmes d'Afrique de l'Ouest qui ont toujours pointé du doigt les maltraitances qu'elles subissaient dans les hôpitaux publics, et notamment au moment de l'accouchement, où elles étaient fortement césarisées, où les suites de couches étaient beaucoup plus compliquées pour elles, et où elles percevaient, là, plus qu'une réalité génétique ou physiologique, des mauvais traitements de la part du personnel hospitalier. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu cherché, et j'ai vu que c'est quelque chose qui a été soulevé très tôt, en fait, ici, dès les années 70, quand les premières femmes, effectivement, c'est d'abord les femmes d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest en particulier, qui arrivent dans les années 70 par rapport au regroupement familial. Très vite, les premières grossesses arrivent. Et les premières grossesses, les premiers conflits. Parce qu'on se rend compte que ces femmes-là, elles se rendent compte que la prise en charge est très particulière et que quasi automatiquement, elles subissent des césariennes. Et du coup, avec le personnel soignant, il y a une guerre un petit peu qui se met en place. Pour elles, elles sont maltraitées et les opérations qu'on pratique sur elles sont abusives. Et pour le personnel soignant, non seulement c'est un petit peu dans leur tête, et en plus, elles sont réfractaires parce qu'elles ont des références culturelles autour de la magie. Voilà. Ça va prendre une telle proportion que le consulat du Mali va s'en mêler. Et va interpeller la ministre de la Santé de l'époque. Et en fait, dès 1984, il va y avoir une recherche qui va être faite pour voir la réalité. Et on va se rendre compte qu'effectivement, les femmes dites africaines, subsahariennes, sont plus concernées par les césariennes que les autres femmes. Donc là, les explications ont fusé. Et l'explication qui va être, la première explication qui va être retenue, c'est la forme du bassin de ces femmes-là. Et sur une classification, pardon, qui date de 1938. Voilà. Et j'ai envie de citer la citation, elle est, voilà. Qui dit que les femmes d'Afrique subsaharienne auraient majoritairement des bassins ovales ou anthropoïdes, avec pour certaines d'entre elles des bassins androïdes, triangulaires et plus semblables à ceux des hommes, donc ne permettant pas un accouchement par voie basse. C'est une classification, alors, excusez l'accent, de Caldwell et Molloy, qui date de 1900.
C'est intéressant parce que justement, je lisais un petit peu sur la médecine coloniale pour préparer l'émission, ils expliquaient qu'en fait, il y avait un rapport direct entre ceux qui théorisaient la race en Occident, donc basés ici dans l'université, et le médecin dit de Brousse, le médecin colonial, qui fournissait assez abondamment des données anthropologiques, des grandes guillemets, sur les populations qu'il étudiait. Et que ça avait un double effet, c'est d'une part de nourrir donc parle tous de dire des mesures, etc., des diagnostics un peu arbitraires, de nourrir en fait en données brutes les théoriciens de la race en Europe, et en même temps de créer une sorte de diversité parmi les nègres, qui a servi directement après justement à l'état colonial, de pouvoir créer des spécificités sur différents groupes de personnes, donc physique comme ça, morale, de santé, pour ensuite utiliser les Noirs de façon stratégique dans différents domaines. Donc c'est assez intéressant parce que la médecine, du coup, on se rend compte qu'elle est vraiment centrale dans la construction raciale et qu'elle continue d'avoir des effets encore aujourd'hui.
Mais qu'elle est surtout imprégnée d'idéologie. On ne va pas croire que des bassins androïdes triangulaires et plus semblables à ceux des hommes, il n'y a pas une certaine forme de misogynie noire déjà imprégnée dedans, puisque quand on s'intéresse à cette classification près, on voit que ces deux formes de bassins sont censées être assez rares, voire très rares. Mais là, elles toucheraient majoritairement les femmes d'Afrique subsaharienne. Et donc du coup, cette explication étant donnée, quand même, on décide procéder autrement, c'est...
Sachant que c'est quelque chose qui est assez courant, en plus, dans la littérature raciste, c'est le peu de différenciation entre hommes et femmes chez les Noirs comme une preuve d'animalité.
Exactement.
Qui serait quelque chose qui les rapprocherait des animaux, parce que dans beaucoup de genres d'animaux, on voit moins bien la différence des genres chez les animaux que chez les hommes.
Voilà, sachant que... Ça va dans les deux sens. Hein.
Oui, bien sûr, la féminisation des hommes...
On parle souvent qu'à des femmes, mais ça va, les hommes sont souvent décrits comme plus efféminés,
plus émotionnels.
Sachant que prendre le bassin, même d'ailleurs, pour décider d'effectuer une césarienne ou pas, c'est un élément qui n'est pas le plus pertinent, puisqu'on se rend compte, en observant 2 secondes, lorsque justement ces médecins qui se retrouvent choqués parce que pour eux, c'était dans la tête de ces femmes-là. Et là, on parle de quand même 13% pour les autres femmes, toutes femmes confondues, 23% pour les femmes d'Afrique subsaharienne, se rendent compte que, non, certes, les bassins de ces femmes-là sont plus petits, mais que la tête des nouveau-nés l'est également. Et donc, en fait, attendre un petit peu, les accouchements sont plus longs, mais il suffit d'attendre un petit peu pour pouvoir se passer des césariennes. Et rien qu'en attendant un petit peu, on se retrouve avec quelque chose qui n'est jamais vu, c'est-à-dire un recul des césariennes par rapport à cette surreprésentation. Les femmes d'Afrique subsaharienne recommencent à se calculer sur les taux des autres femmes. Voilà. Alors, ça va être abandonné, on ne sait pas trop pourquoi, ça va être abandonné et les taux de césarienne, le taux de césarienne va augmenter dans les années 90. Là, la raison qui va être invoquée, ça va être le VIH. Sachant que, en réalité, lorsqu'on regarde, les chiffres ne sont pas vraiment concordants avec la hausse des césariennes, la reprise des hausses de césariennes et le nombre de femmes césariennes atteintes du VIH. Voilà, ça va perdurer toutes les années.
Pourquoi par rapport au VIH ?
Pour la transmission, en fait.
Ils ont appris à faire les accouchements dits propres, mais que en césarienne. Les premiers accouchements sans transmission, c'était en césarienne.
Pour éviter la transmission, parce qu'avec le VIH peut se transmettre durant l'accouchement. Il y a durant la gestation, il y a durant l'accouchement et durant l'allaitement. Donc voilà, c'est pour éviter la transmission durant l'accouchement. Donc ça va être systématisé, ça va être abandonné avec l'arrivée de nouveaux médicaments. Et là, en fait, on se rend compte que ça perdure encore dans les années 2000. Et la raison invoquée, là, ça va être une étude. On ne sait pas trop d'où elle sort. Alors, apparemment, d'une université américaine qui dit que les femmes noires, pour le coup, accoucheraient plus tôt. Elles accoucheraient plus tôt. Voilà. Ce qui nécessite, en fait, on se rend compte, si on fait en gros, que le taux de césarienne des femmes dites africaines ne baisse pas. Sauf lorsque les pouvoirs publics sont interpellés pour ça, qu'il suffit en réalité de changer un geste dans
le protocole.
Excuse-moi, le protocole, il est fait par qui ? Par une infirmière ?
Et c'est là le problème, c'est que c'est des protocoles à part le moment où on décide de voir ce qui se passe. Et qu'on met en place, pour le coup, c'est ce qu'on appelle le protocole pilier, ça se fait sous sa direction. Même c'est d'abord pour les hôpitaux de la région parisienne, mais ensuite, il y a d'autres régions, où je pense qu'il y a quand même le Havre, qui accueille, je crois, une forte population malienne, qui, du coup, utilise le même protocole. Mais finalement, ce n'est pas nationalisé, il n'y a pas de politique. Une fois, je pense que cet homme est parti à la retraite, le protocole il s'est arrêté avec son départ. Et en fait, on se rend compte que c'est les croyances personnelles.
C'est pour ça que je posais la question, parce que dans les cours d'infirmerie, quand il s'agit des populations noires sur certaines problématiques telles que la drépanocytose le ressenti là, méditerranéen, qui
dit
syndrome méditerranéen. Je n'aime pas trop non plus, mais ils sont beaucoup en retard en fait. Et au niveau des informations, du moins, rien n'est à jour.
Bah, déjà,
c'est une médecine de brousse, donc très raciste aussi.
Pour revenir sur cette histoire de bassin, parce qu'encore aujourd'hui, le personnel soignant, il a, lorsqu'on parle de la physiologie des femmes africaines, cette classification, elle a toujours cours. Donc aujourd'hui, les soignants ont cette classification en tête. On se rend compte que non seulement l'étude de 1980, elle est très peu connue, c'est-à-dire que le personnel soignant aujourd'hui a presque pas entendu, n'a jamais entendu parler de l'étude qui a été faite, et c'est cette question de génétique qui a avancé plus, c'est un système de croyance, d'autant plus que, la sage-femme, M. Solo, qui décide de s'intéresser, elle va faire une micro-étude, parce que du coup, c'est pas national, c'est des micro-études, sur cette histoire justement de bassin. Et elle se rend compte que beaucoup du personnel soignant se repose encore sur cette histoire de bassin, sauf qu'elle va se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans les années 2000, si les Africaines subsahariennes sont immigrées, sont toujours autant césarisées, celles qui sont nées en France le sont beaucoup moins. Et en fait, c'est quelque chose qui... Et pourtant, si on interroge le personnel soignant, pour lui, mère immigrée subsaharienne, fille immigrée subsaharienne, même type de bassin. Et on se rend compte que dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Et dans les premières radios qu'on sollicitait, on se rend compte que la forme du bassin, en fait, n'est plus la même. Ce n'est pas une caractéristique génétique immuable. Il y a sûrement d'autres critères. Et puis, il faut peut-être aussi interroger cette norme du bassin, puisque personne ne rentre dans la norme. C'est-à-dire que pour les femmes non noires, 6 femmes sur 10 ont un bassin dit trop étroit. Et effectivement, c'est un peu plus pour les femmes d'études salariées, qui, elles, seraient de 9 sur 10, mais enfin, personne n'est dans la norme.
Mmh. Non, mais du coup, ça rentre dans les normes bibliothèque d'exemples historiques de traitement raciste à la médecine. Et quand on s'intéresse à cette histoire-là, on voit que de toute façon, il n'y a pas de médecine moderne qui soit pas raciste. C'est-à-dire que l'histoire de la médecine moderne et l'histoire du racisme sont trop inextricablement liées pour les dissocier. C'est cette relation dont je parlais tout à l'heure qui s'est manifestée de plein de façons différentes. Par exemple, il y a eu des différences de normes sanitaires dans les campagnes de vaccination en brousse, en colonie et ici. C'est-à-dire que même quand on a commencé à mettre en place des protocoles qui respectaient l'humain, qui empêchaient le développement de certaines maladies, ils étaient peu respectés dans les colonies. Et vu que la médecine, depuis dans le logiciel colonial, était vue comme quelque chose qui était apporté gracieusement par le colonisateur aux colonisés. Donc il y a aussi cette relation de pouvoir qui est assez centrale dans le colonialisme dans le package civilisationnel, un des bienfaits de la colonisation, c'est la médecine. Mais quand on voit les conséquences assez désastreuses que ça peut avoir dans certaines régions, on peut s'interroger de comment on classifie la médecine moderne dans les acquis de la colonisation, dans les crimes ou dans les soi-disant bénéfices.
Oui, la mythologie des bénéfices de la colonisation.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ces femmes-là, justement, lorsqu'elles subissent ces césariennes à répétition, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a subi une césarienne, le prochain, on a de fortes chances d'être encore soumis à une césarienne, se plaignent après de troubles de la fertilité, se plaignent de douleurs, et ils voient carrément une atteinte alors à la reproduction, ce qui est bien sûr balayé d'un revers de main par les études, ça crée plein de complications. Ça reste une opération déjà, et il faut des suites de soins. C'est des soins à domicile, c'est pas pouvoir bouger correctement. Et on voit que quand même des années 70 jusqu'aux années 2000, les raisons invoquées ne sont pas les mêmes, mais les conséquences
sont les mêmes.
Et donc là, oui.
C'est pas étonnant que soit des féministes noires qui est comme Loretta Ross qui soient parties de ce genre de cas et de toute cette histoire-là pour inventer un concept que je trouve assez intéressant pour aborder ce genre de questions, qui est le concept de justice reproductive. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce genre de mauvais traitements, ce genre de violences obstétriques, etc., ont des conséquences sur la reproduction qui va au-delà de simples problèmes de ces tragédies individuelles et familiales, mais qui portent en elles-mêmes la question de la reproduction, par exemple, de la vie noire en elle-même. C'est-à-dire que cette manière d'aborder le sujet à travers les violences gynécologiques, etc., c'est un élément qui est tout à fait central, comme l'a dit aussi dans cette histoire coloniale, et qui est lié plus généralement à un contrôle des populations. C'est-à-dire que la question de la justice reproductive, ce n'est pas seulement la question de la violence des gynécologues, mais ça nous ouvre la voie à ce qu'on a dit avant sur la surmortalité, ça nous ouvre la voie à ce qu'on a dit sur les standards différenciés et différentiels de médecine, et plus généralement à la façon dont ce sont des éléments d'une violence sur la population noire en tant que telle, dans sa capacité à se projeter dans l'avenir et dans sa capacité à se maintenir. Tout ça, toutes ces négligences, qui peuvent être des négligences ou qui peuvent être délibérées, tout dépend des cas, tout dépend des situations, mais ça fait partie d'une négligence plus ou moins consciente qui vise à attaquer la population noire en tant que telle, c'est-à-dire à l'attaquer dans sa subsistance et dans son existence. Il s'agit de... C'est ce que dit un philosophe africain-américain qui s'appelle Leonard Harris. Il s'agit bien de voir que le racisme, si on veut vraiment l'objectiver, si on veut vraiment comprendre sa nature singulière, la violence raciale, différente de la violence du capitalisme, différente de la violence du patriarcat, une bonne manière de l'objectiver, c'est de bien avoir sous les yeux le fait que la durée de vie des Noirs est systématiquement inférieure, où qu'ils soient dans les différents pays. Et plus généralement, la durée de vie africaine est inférieure à celle des populations européennes ou américaines. Ce n'est pas dû à leur incapacité à se maintenir dans l'existence, à leur plus grande sensibilité aux maladies, s'ils ont été réduits en esclavage. C'est au contraire parce que ces caractéristiques étaient jugées supérieures à celles des Amérindiens. Leur résistance était jugée supérieure à celle des Amérindiens. C'est à cause de leurs conditions, c'est à cause de leur mauvais traitement, c'est à cause de ces violences obstétriques, mais aussi c'est à cause de leur surexposition au virus, c'est à cause des violences policières, c'est à cause des conditions de logement lamentables, c'est à cause de tout cet ensemble de facteurs négatifs, des comorbidités, etc. Cette question de la durée de vie, c'est d'une certaine façon un trou de souris à partir duquel on peut observer la condition de la vie noire et qui nous emmène à tous ces facteurs qui réduisent la durée de vie des populations noires partout dans le monde, en diaspora, aussi bien que sur le continent. C'est un point très important qui nous permet de voir l'ensemble des violences, toute la variété des violences que subissent les populations noires et qui affectent leur santé, qui affectent leur durée de vie. Soit à cause donc, des violences qui immédiatement mettent fin à une vie, mais aussi des choses plus banales. Je sais qu'il y a des personnes ici qui travaillent de nuit. On sait très bien que le fait de travailler de nuit un an, ça vous réduit votre durée de vie de 2 ans, etc. Et c'est exponentiel. C'est quelque chose qui vous réduit la vie drastiquement, le fait de travailler. On le sait, et on sait très bien que c'est les populations noires et les populations arabes dans le contexte français qui travaillent de nuit le plus massivement pour différentes tâches, etc. Que ce soit dans plein de secteurs. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie du même système, qui est un système non seulement d'assigner les populations noires à des travaux, à des basses besognes, etc., non seulement des négligences en ce qui concerne leur traitement médical, mais je pense qu'il faut considérer l'hypothèse selon laquelle ces systèmes de négligence en réalité un lien avec une certaine logique génocidaire. C'est-à-dire que il s'agit de faire en sorte soit de manière délibérée, soit en ne traitant pas ces problèmes, soit en les laissant en l'état, en les laissant empirer, il s'agit de considérer que les populations noires, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Brésil, gagneraient à les réduire, gagneraient à faire en sorte qu'elles ne se multiplient pas trop et que on les garde à un taux de mortalité le plus élevé possible.
Sans contredire, en normal, je pense qu'il y a aussi des contextes qui vont mener à différentes utilisations de la médecine. J'avais un document qui parlait de l'expression « faire du noir » du ministre des colonies Albert Sarro, où on est dans une époque où la médecine coloniale avait principalement pour but de favoriser en fait une certaine, pas forcément une longévité, mais en tout cas une production de corps, en fait, la reproduction chez les populations noires indigènes, dans le but principalement de pouvoir les surexposer à la mort par la suite, en les mobilisant dans les conflits internationaux et en les mobilisant dans des travaux d'extraction ou de grandes œuvres extrêmement
mortelles. Dans des plantations de caoutchouc, dans les constructions des chemins de fer, des routes, etc., où il y avait parfois des taux de mortalité de 94%. Mmh. 94% sur le transfert d'un chemin de fer, des taux de mortalité. J'éclate de rire, mais parce que les chiffres sont tellement délirants que ça peut paraître paranormal presque.
Donc même quand il y a une utilisation de la médecine coloniale qui est censée avoir pour but la vie, qui est censée être plutôt nataliste, au final, la finalité, c'est de sacrifier les corps noirs produits, enfin en tout cas, au travail. Et on retrouve un peu la même chose dans le contexte esclavagiste. Si dans une plantation, une épidémie prend trop de proportions, la même personne qu'on va attaquer ou soupçonner de sorcellerie toute l'année va devenir d'un coup le médecin de la plantation. Il y a beaucoup, dans les contextes d'épidémie dans les plantations, il y a beaucoup de personnes garantes des savoirs traditionnels qui d'habitude sont soumis à la suspicion et à la traque. Il y a beaucoup d'ailleurs de procès dans les plantations pour sorcellerie. Dans les moments de pandémie, c'est ces moments-là où on voit que les maîtres même vont chercher les bush doctors pour sauvegarder en fait les cheptels. Donc c'est assez intéressant de voir comme la médecine occidentale, mais aussi la médecine indigène, va être quelque chose qui va être assez central dans le contrôle, la domination, la sauvegarde, même des fois des corps noirs.
Ah, mais c'est des corps noirs qui servent pour l'intérêt
sacrifiable.
Pas du pouvoir blanc, en fait.
Non, c'est ça. Le but, c'est pas forcément l'amélioration des conditions de vie, non, c'est vraiment juste la reproduction de cette masse-là dans un but de l'abattre au travail ou à la guerre. Parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est assez récurrent.
Ah oui, parce que le fondateur, qui est encore considéré aujourd'hui comme le fondateur de
la gynécologie,
moderne, Sims, il a commencé, lorsqu'il est parti dans le sud, en rafistolant des esclaves dans les champs de plantation. Mm-hmm. C'était un médecin plutôt médiocre, mais son expérimentation, elle n'a pas commencé, elle s'est poursuivie après en gynécologie sur les corps de femmes noires, mais elle a d'abord commencé ses œuvres dans les champs de plantation, où il était appelé pour... on ne peut pas appeler ça soigner, mais remettre en état, en tout cas,
de barge,
voilà, les esclaves pour leur permettre
de se faire exploiter de retour au travail.
Et donc, bien entendu, quand il s'est intéressé à la gynécologie, il a continué sur sa lancée et il a expérimenté sur les corps qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire le corps de femmes noires, même si on n'a pas pu... on n'a pas pu toutes les identifier, on a quelques noms, enfin, apparemment il faut les citer maintenant, ici à Martha et Betsey. Voilà, je ne sais pas. je comprends un peu la démarche, ça m'interpelle un peu.
Mais qu'est-ce que ça veut dire face à la multitude de victimes qui n'ont pas de nom, quoi.
C'est bien de dire, comme déboulonner sa statue, on l'a juste mis un peu plus loin, il est toujours considéré comme le père fondateur.
Est-ce qu'il a démoulé la mairie de New York ou la population?
Alors je crois que c'est sous la pression de la population.
Mais c'est la mairie qui a déboulonné, voilà, donc c'est pas le même geste.
Déjà, en plus elle a déboulonné pour le mettre dans ce cimetière où il repose.
Ah, voilà.
Après, je pense que c'est un aspect intéressant, parce que quand on parle de colonisation, les gens ont beaucoup en tête Ah, les matières premières, l'exploitation des matières premières. Mais c'est plus compliqué que ça. La colonisation, c'est aussi un espace d'expérimentation. Qu'est-ce qui se passe quand des nations occidentales progressistes, orientées vers le progrès scientifique, ont accès à des populations dont la dignité n'existe pas, est bafouée, niée? C'est un terrain d'expérimentation formidable. Ça permet pour eux de faire des expériences à grande échelle, d'avoir des corps qu'on peut mutiler, qu'on peut utiliser comme cobayes. On a d'ailleurs beaucoup aussi de cas de restes humains qui sont envoyés dans les écoles de médecine, dans les institutions de sciences humaines en Occident, par les médecins de brousse, ou de corps. Alors, quand on sait l'importance pour nous qu'ont les morts et leur corps et leur dignité, des morts dans les mains des médecins qui sont rapatriés en Europe. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les endroits comme...
le Vietnam.
Voilà, et tous les cœurs de la production scientifique coloniale parisienne ont plein de corps.
Ah oui.
De nos gens. Donc c'est ça, c'est un des aspects de la colonisation qu'on n'enseigne pas assez, qui ne circule pas assez dans le truc, mais vraiment comme un espace d'invention et d'expérimentation scientifique, économique, politique, qui est possible, qui est vraiment possible par la déshumanisation des populations indigènes.
C'est la déshumanisation qui rend les corps morts comme des matières premières, en fait. Il faut englober le corps mort comme une matière première pour Colomb. Ça lui permet effectivement de construire sa science, de construire son progrès. Et puis il y a plein d'exemples comme ça d'expérimentation. Mais dans les plantations, c'est toujours les espaces de marginalisation, les plantations, dans les prisons aussi, des expériences sur les prisonniers. J'ai entendu parler récemment d'une affaire, c'est une étude sur 400 hommes. C'est une étude sur la syphilis, c'est pendant 40 ans.
Tuskegee.
Tuskegee. Mm-hmm. Pendant 40 ans, on les a inclus donc, dans cette étude en leur faisant croire que voilà, c'était une étude de tout ce qui est plus banal. On leur dit que ça va leur durer 6 mois. Et finalement, pendant 40 ans, on étudie chez eux comment la syphilis se développe, donc sans les traiter, sans leur prodiguer la pénicilline qui permettrait de les soigner. Donc, c'est des choses terribles et qui sont assez récentes. Hein. C'était entre les années 30 et les années 70. Et ça s'est arrêté dans les années 70 parce que le New York Times a fait arrêter le truc. Mais il y a des choses comme ça très récentes. En fait, on s'imagine que ça remonte à longtemps, ce genre de choses. Ou comme les stérilisations, c'est des choses qui sont très récentes dans l'histoire, finalement. C'est très inquiétant.
Ouais. D'ailleurs, du coup, il faudrait voir aussi, je pense, en plus de l'accumulation de richesses, qui a été évidemment le produit de la colonisation, l'accumulation de connaissances comme un produit direct de la colonisation. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi peut-être expliquer la défiance que vont avoir certaines populations envers la médecine occidentale, envers les autorités médicales occidentales, parce que c'est cette production-là de connaissances et cet exercice de la médecine, c'est beaucoup fait contre nous et sur nous. Et je pense que voilà, malgré les critiques qu'on pourrait émettre sur, en ce moment en Martinique, une lutte nationaliste qui se cristallise quasiment uniquement sur un phénomène qui est passager, il faut quand même garder à l'esprit cette mémoire-là d'une science qui est fondamentalement construite contre nous et sur nos dépouilles.
Ça me fait rebondir ce que tu dis sur l'accumulation de connaissances et la perfection des connaissances. Nos corps servent aussi à ça. Dans le cas des césariennes, pour revenir sur ça, pourquoi elles, c'est aussi permettre à des jeunes médecins de pratiquer une opération. C'est pas un truc aussi banal que ça. Quelque chose qui revient souvent, c'est quand même, elle sert de
cobaye.
De cobaye, voilà, de terrain d'entraînement.
Ça me fait penser à Vénus Noire.
Oui, c'est le cas le plus connu, en fait, d'une femme qui est devenue un cobaye vivant et puis mort. Mais c'est vraiment un cas parmi beaucoup sur plusieurs siècles, avant et après la colonisation, de femmes noires dont la dignité est bafouée au profit du progrès scientifique.
Beaucoup de gens connaissent le docteur Mengele, le fameux docteur nazi qui faisait des expérimentations à Auschwitz sur les internes, notamment juifs, mais pas seulement, les internés d'Auschwitz. Il a eu un prof qui est assez connu lui aussi, qui était d'ailleurs un fief nazi également, qui s'appelait Eugen Fischer. Et c'est Eugen Fischer qui donc a appris beaucoup, qui a fourni beaucoup de sa connaissance à Mengele. a, pour sa part, fait ses armes dans le camp de concentration, le premier camp de concentration de l'histoire politique allemande, qui était de Shark Island, l'île du requin en Namibie, où il a commencé, disons, ses expérimentations pour prouver la supériorité de la race aryenne et l'infériorité des nègres. Les juifs n'étaient pas encore au cœur de ses préoccupations, mais il s'agissait bien sûr des populations noires, des héros et des namas. Donc, c'est là-bas, vers le sud de l'Afrique, en Namibie, que le premier camp de concentration, le premier Konzentrationslager, a apparu et où l'une de ses fonctions principales, au-delà du travail forcé, au-delà de l'enfermement des populations qu'on voulait exterminer, l'une des fonctions principales, ça a été de mener tout un tas d'expérimentations, de mesures craniologiques, de prélever des morceaux de corps, etc., etc., dans le but de fabriquer cette science raciale qui va faire, disons, le bonheur des universités allemandes nazies tout au long de la première moitié du XXe siècle. Ça commence au tout début du XXe siècle avec ce premier génocide du XXe siècle qui est celui des Hereros et des Namas en Namibie. Mais comme tu disais qu'aussi, c'est évidemment, tout ça est évidemment lié, intrinsèquement lié à une certaine conception de la science, une certaine conception de la médecine qui fait véritablement du nègre dans son ensemble son corps, comme son âme, son esprit, un champ d'expérimentation infini où aucune limite, aucune borne, si je puis dire, éthique ou morale, n'est à considérer, n'est à prendre en compte. Et comme toujours, tout ce genre de saloperie, ça commence toujours par le noir. Le noir, c'est toujours le crash test de la civilisation, celui par lequel les pires atrocités, les pires abominations entrent dans la civilisation occidentale et deviennent légitimes pour la civilisation occidentale. Donc on ne peut pas penser, je pense, le médecin le plus haï de toute l'histoire probablement de l'humanité, Mengele, sans se souvenir qu'il a été à l'école de Eugen Fischer.
Ouais, moi, du coup, je pose la question en ayant fait l'état à la fois de notre histoire récente par rapport aux questions de santé et la façon dont on y a réagi politiquement, mais en même temps l'histoire qu'on a tant dans la dévalorisation de nos savoirs scientifiques et médicinaux et dans l'expérience de cobayes pour le progrès scientifique et médicinal d'autres. Comment nous, en fait, en tant que militants pan-africain, on peut penser ou en tout cas inclure une réflexion sur la médecine dans nos projets politiques. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quelle perspective vous pensez qu'on peut tirer de cette expérience historique collective qu'on a.
je reviendrai par, sur quelque chose qui est souvent dit, et, mais ça, ça, ça m'apparaît être toujours la réponse, c'est militer pour des États forts, des États d'Afrique forts. Parce qu'on on se rend compte que c'est par là que commence une réflexion, en tout cas une égalité de traitement généralisée pour les Noirs où ils se trouvent.
Sachant que nous, on n'a pas vu l'état des services médicaux dans nos pays respectifs, on n'a pas ce luxe qu'ont les Occidentaux de rentrer chez eux soigner. Et quand tu viens d'un pays où il y a une sorte de désert médical qui est entretenu par un état de délitement des institutions créé directement par la situation néocoloniale, c'est très difficile de se dire, je rentre chez, c'est-à-dire chez nous, ce n'est même pas un abri médical.
Néanmoins, puisqu'on reste, je reste sur les chiffres sur la maternité, il faut quand même savoir qu'une femme noire a plus de chances de mourir dans des hôpitaux high-tech de certains pays occidentaux que dans des hôpitaux moyens de gamme dans les États d'Afrique. Donc là, c'est vraiment la gestion et la prise en charge. Il faut vraiment appuyer dessus. Si vous n'êtes pas considéré comme des êtres humains, on ne vous traite pas comme des êtres humains, on ne vous soigne pas comme des êtres humains. Et il y a beau avoir le matériel le plus high-tech possible, on ne vous sauvera pas.
Moi, c'est sûr. Moi, je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur l'état des systèmes de santé en Afrique, qui sont vraiment hétéroclites, mais...
Ouais, très hétéroclites.
Ouais,
mais c'est clair que c'est, comment dire, avec les années 90, enfin 80-90, les politiques d'ajustement structurel, la destruction des services publics africains, démolition systématique de tout ce qui est services publics, le rêve inatteignable de faire basculer tous ces services publics dans, disons, des infrastructures privées qui, en réalité, n'ont jamais existé, avec des investisseurs qui étaient absolument, absolument fantomatiques. La possibilité de maintenir ce genre de système, comme l'exemple un petit peu éculé, mais qui pourtant est bien réel de Cuba le montre, des politiques publiques sont possibles, y compris dans des situations d'extrême défaveur en termes de conditions internationales et en termes de possibilités de partenariat avec des grandes puissances environnantes. C'est-à-dire que un certain volontarisme politique et une certaine stratégie, une réflexion stratégique du point de vue de l'État peut rendre possible un système médical même autarcique qui peut fonctionner, qui peut être performant et qui peut former des générations et des générations de médecins. Et voilà, je sais que l'espace caribéen s'est gré à Fidel Castro d'avoir mené ce genre de politique, parce que l'ensemble de la sous-région en bénéficie d'une certaine façon.
De façon directe. Moi, je me suis fait soigner par des médecins cubains. Il y a vraiment la moitié de nos médecins au niveau régional qui sont formés chez les Cubains, parce que ça veut dire revenir sans dette. Se former aux États-Unis, c'est revenir avec des centaines de milliers de dollars de dettes, et donc potentiellement l'obligation de l'exercer en Occident pour pouvoir rembourser ces dettes d'études. Cuba propose à la fois de fournir des hôpitaux qui sont dans des pays où il y a une grosse fuite des cerveaux en médecins, et de former les nôtres. Et c'est quand même, voilà, ça veut dire que même un petit pays insulaire, comme dit Norman, qui est sous le coup de restrictions politiques et économiques intenses, avec un certain volontarisme, peut profiter non seulement à sa population, mais à l'ensemble de la région. Et c'est dire le potentiel inexploité que représentent nos pays, parce que vraiment, avec un gouvernement qui servirait les intérêts locaux et régionaux, donc à la fois nationalistes et panafricains, il y aurait vraiment des possibilités de changer des réalités locales très vite et très fort.
Ouais. Oui, on voit une petite île comme ça, comme Cuba, on imagine ce qui serait possible à l'échelle d'immenses pays comme les pays d'Afrique. S'il n'avait pas eu les reins cassés, brisés par les politiques néolibérales de l'ajustement structurel qui ont simplement détruit ces États dans leur possibilité d'avoir une stratégie autonome et d'avoir le contrôle souverain de leurs propres finances et de leurs propres services publics. C'est ça qui a été détruit, et c'est ça que, si, comment dire, sans rembobiner cette cassette-là, sans la récupération de cette souveraineté comme Sadio l'a dit, et sans une nouvelle réflexion sur les rôles non seulement de la médecine, mais des services publics en général, rien n'est possible. Rien n'est possible à cet égard-là. Mais si ça, c'est possible, l'exemple de Cuba montre que énormément de portes peuvent s'ouvrir et énormément de stratégies et beaucoup d'espoir devient raisonnable.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec la question de la santé, avec tout ce qu'on a dit, le risque, c'est quand même le pessimisme. Et c'est quand même aussi peut-être décourager les communautés à aller se faire soigner. C'est-à-dire dire, de toute façon, c'est foutu, l'hôpital est contre nous, les médecins sont contre nous. Il y a quelque chose qui peut confiner au pessimisme. Et c'est vrai que, sans parler d'État, on a quand même des expériences communautaires comme celle du Black Panther Party, qui prenait le pragmatisme et qui, dans l'objectif de faire accéder aux soins les populations afro-américaines, noires sur place, ont mené des initiatives, donc, par exemple l'ouverture de cliniques populaires et gratuites, dont chaque section était obligée d'en ouvrir une hein, pour pouvoir exister à partir des années 68-70. Et notamment, ils travaillaient en partenariat avec des personnels médicaux qui étaient majoritairement blancs, hein, question d'accès aux études sur place. Donc, c'est vrai que bon, je ne sais pas si l'État souverain nous est promis dès demain, mais en tout cas, sur des échelles plus petites, on peut déjà commencer à réfléchir de façon pragmatique à comment mieux se soigner, comment. Avec tout ce qu'on sait de notre histoire aussi, avoir la méfiance qu'il faut aussi, sans forcément que ce soit des ruptures de soins ou de non-recours aux soins, quoi. Il y a des choses communautaires à penser, je trouve, dans ce sens-là.
C'est un peu déjà ce qui se fait. C'est vrai que le Covid, ça a été un petit peu une rupture à ce niveau-là. On a vu des gens qui refusaient l'accès aux soins, mais de façon générale, on a besoin d'être en bonne santé parce que c'est notre force de travail, pour le coup, nous, c'est à peu près la seule valeur. Donc, je pense que il y a quand même des stratégies qui sont mises en place. Par exemple, pour l'accès aux soins, on sait qu'il ne faut pas y aller seul. Moi, je sais que lorsqu'on va à l'hôpital, on n'y va pas seul. On y va avec quelqu'un qui va pouvoir parler à votre place, surveiller, regarder ce qui est fait. Voilà, il y a des petites stratégies.
Ça crée même des nouveaux métiers. Alors, je sais qu'aux États-Unis, le métier de doula, qui est une accompagnatrice d'actes dans l'accouchement, l'enfantement, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans pas mal d'endroits parce qu'ils viennent en fait défendre des femmes enceintes de la violence obstétrique.
Alors, ça a été repris et dénaturé, mais tout à la base, c'est un projet communautaire. C'est vraiment comment prendre en charge une population qui ne trouve pas d'aide dans les structures mises en place et comment l'aider à guérir. Il n'y a pas du tout le volet judiciaire qu'on voit maintenant. C'est vraiment une sorte de guérison penser à travers la communauté comment se guérir entre nous. Donc, il y a vraiment, je pense, toujours des stratégies ponctuelles. Enfin, c'est vrai qu'elles sont ponctuelles, elles sont limitées à un endroit, mais elles existent déjà.
Mais surtout que quand on prend en charge notre santé, on n'est pas du tout dans le même dynamisme. Je pense au Sierra Leone et au Liberia, quand il a fallu se battre contre l'Ebola. Tant que le message était répressif, extérieur, principalement pris en charge par les organismes internationaux, il y a une grosse résistance et beaucoup de recours à la médecine traditionnelle qui ont créé beaucoup de mortalité dans les campagnes. Et à partir du moment où le message a été repris nationalement, c'est-à-dire par les institutions culturelles, communautaires, locales, où qu'on crée une vraie relation de confiance dans la communication avec la population, les choses ont changé du jour au lendemain. Les gens ont commencé à avoir confiance dans l'institution parce que le message était vers eux, pour eux, par eux. Et c'est vrai que cette conscience nationale, cet effort national est complètement différent. Et c'est difficile à recevoir quand on est une population colonisée.
C'est un peu pensé aussi pour l'excision. C'est la seule stratégie qui a marché. Lorsqu'on est allé dans la répression et dans des trucs très coloniaux, très colonial, avec les gens qui venaient nous expliquer, ça ne marchait pas. Les gens étaient hermétiques. Mais lorsque ça a été des petites communautés, ça a été pris en charge différemment, là, il y a eu vraiment des reculs et des abandons de plus en plus fréquents dans certains groupes. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on a enregistré un revenu qui, jusqu'à aujourd'hui, perdu.
Mais du coup, il y a une interaction entre le politique et le sanitaire, au final. C'est-à-dire que si on a des communautés qui sont organisées politiquement, qui peuvent prendre en charge le discours sur la santé, à la fois dans les défiances et à la fois dans les réflexes communautaires à adopter pour se protéger, on aurait peut-être un rapport à la santé qui serait mieux, parce qu'on pourrait défendre nos intérêts tout en ayant une charge de responsabilité plus importante, plus engageante, en fait, au niveau de notre santé, au niveau communautaire.
Totalement.
Ça, je pense que c'est aussi intéressant que national, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans les pays dont on parle normal, qui ont été déstructurés au niveau des infrastructures, on se retrouve avec des ONG qui servent souvent des intérêts étrangers, qui sont en charge d'une grosse partie du rapport aux soins. Avec tous les scandales qui viennent par là.
Avec un délabrement qui est constaté, c'est-à-dire que dans les années 2010, lors de groupes familiaux, on se rend compte qu'on avait des personnes en très bonne santé qui arrivaient, et depuis justement les années 90, on a des populations de plus en plus qui sont de plus en plus en mauvaise santé. Mmh. Et donc, effectivement, je pense que c'est accolé, comme Norman l'a dit, avec un alignement sur des politiques qui sont complètement détruites.
Mmh. Ça,
c'est une conséquence directe. Mmh.
C'est vraiment tout ça. Ça fait vraiment partie, je pense, d'un ensemble. Parce que, comme je disais avant, cette question de la santé, ça va avec la question de l'alimentation. Évidemment, ça va avec la question de la qualité de l'alimentation qui est proposée dans les magasins. Ça va avec la question de la, comme je disais, des services publics en général, de la possibilité d'une certaine autonomie de ces services publics. Et comme tu l'as dit, le fait que la délégation qui a été demandée par le FMI et la Banque mondiale à ces ONG dont tu as rappelé la sinistre existence, la perte de monopole des États, ou en tout cas même de contrôle des États sur leurs propres soins, tout ça, ce sont des questions qui nous montrent que, disons, le thème de la souveraineté, le thème du contrôle de ces États et de la possibilité bientôt d'un État, bientôt, la possibilité hypothétique d'un État panafricain ou d'États-Unis d'Afrique, passe par ce genre d'éléments très concrets. Disons, ça le rend désirable. C'est ce genre de situation, ce genre de manque dont on voit les effets délétères et parfois même catastrophiques, qui nous montrent pourquoi le panafricanisme est désirable. Pourquoi une politique africaine radicale est désirable? Tout simplement parce que c'est la réponse à l'impouvoir dont l'effet, c'est ça, c'est-à-dire des États qui sont empiriquement incapables de maintenir en vie leur propre population. La santé, c'est un exemple de ça. Et on voit que l'exemple européen, le contre-exemple européen, est assez triste à cet égard, puisque on a au contraire des États qui ont les moyens, qui auraient les moyens de maintenir en vie leur population, mais qui n'en ont absolument pas le désir. Y compris parfois les populations blanches, puisqu'on a beaucoup ces débats autour des fermetures de lits, etc., des fermetures de lits dans les emergency rooms, dans les centres d'urgence, etc. En revanche, beaucoup d'argent est injecté, comme je disais, dans le contrôle social. Bon, ma foi, ce sont des choix. Tout ça, ça fait partie d'une certaine façon de la même logique néolibérale, ressentie par un appauvrissement radical de tous les services publics ensemble dans les contextes africains et dans les États autonomes, enfin indépendants des Caraïbes, et ressenti par une logique 100% contrôle, 100% policière, 100% violente et à tendance génocidaire dans les États occidentaux. Aucune de ces deux situations n'est désirable, mais elle nous montre quels sont les problèmes et elle nous montre, disons, la voie de ce qui serait désirable pour une politique et pour une stratégie noire et panafricaine. C'est-à-dire une autonomie que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux, mais qui ne serait pas une autonomie de la répression policière. C'est quelque chose que déjà, comment dire, Cheikh Anta Diop, dans son petit texte sur la voie vers... Je suis désolé, je ne me souviens plus de son titre, mais c'est ce petit texte qui est sur la voie vers le fédéralisme africain, disait déjà que c'était une menace dans les années 70, déjà. Il disait que c'est une menace qui pèse sur les États africains, ces États africains rétrécis, de n'avoir aucun service public, de n'avoir aucune souveraineté, d'être, disons, gouverné par des ambassades étrangères qui sont sur leur sol, mais par contre d'avoir une hypertrophie de la police, une hypertrophie de ces éléments répressifs que l'on voit en Europe. Et il disait très bien, ce qu'il faut, c'est mettre le paquet sur d'autres choses, mettre le paquet par exemple sur la santé, mettre le paquet sur... comment dire, l'éducation, sur la culture, etc., c'est-à-dire avoir une véritable infrastructure à offrir au peuple. Aujourd'hui, tristement, l'Europe et les États-Unis ne sont plus désirables à cet égard-là. Ce sont des systèmes éducatifs, des systèmes de santé et des systèmes culturels qui sont déliquescents, qui sont lamentables, qui sont de plus en plus dans une situation de pourrissement. Et donc, il nous montre, par contraste, la voie de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que l'État ne devrait pas faire.
DJ Thérapie. Panafricain, danse comme un panafricain. Panafrica fait danser Marine. Je débarque sur les ondes, c'est l'heure du crime. Tu connais le délire, niggas. Je suis dans le Banks, y'a pas d'American Dream. Y'a pas d'American Dream. Je suis dans le Banks, ici la Hesse nous anime. Ici la Hesse nous anime. Je suis dans le Banks.
Pour conclure cette discussion, un des membres de l'équipe revient sur une idée qu'il aimerait approfondir afin de partager avec vous ses pistes de réflexion. C'est le mot de la fin.
Pour conclure cet épisode de la question noire, je décide de parler d'un événement tristement célèbre. Il s'agit de l'expérience de Tuskegee qui a été menée au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Il s'agit d'une étude qui a été lancée en 1932 et qui est le fruit d'un partenariat entre l'Institut Tuskegee et le Service de santé publique des États-Unis. L'Institut Tuskegee est une université historiquement à majorité noire, qui accueille donc des étudiants noirs, mais qui est, comme beaucoup d'universités états-uniennes noires à ce moment-là, bien sûr aux mains des Blancs. Cette expérience durera 40 ans. Environ 400 hommes noirs sont recrutés pour mener une expérience sur la maladie sexuellement transmissible qui fait des ravages à l'époque, la syphilis. Cette expérience pose des questions éthiques extrêmement profondes. D'une part, aucun vrai diagnostic n'est délivré aux 400 hommes noirs qui constituent les patients. On leur dit simplement qu'ils sont atteints d'un « bad blood », d'un mauvais sang. D'autre part, et c'est là le plus grave, le but ne sera pas de soigner la maladie, mais d'étudier l'évolution de la maladie chez les hommes noirs sans traitement. En d'autres termes, alors qu'on leur promet de soigner leur affliction, ils ne se voient attribuer que des placebos, et le but est d'observer la dégénérescence de leur corps et de leur esprit. L'expérience cible particulièrement une partie de l'Alabama, le comté de Macon. Le comté de Macon est choisi pour de bonnes raisons. En tout cas, du point de vue de l'administration américaine. La population est presque totalement noire. Elle est pauvre, souvent illettrée. Et 36% de la population, 36% de la population du comté de Macon est syphilitique. Et sur ces 36%, 62% est atteinte de syphilis congénitale, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les parents. En 1932, les traitements sont rares, ils sont chers, et ils sont souvent très hasardeux, ils sont à base d'arsenic et de mercure qu'on utilise pour démolir le corps du patient en espérant que la maladie n'encaissera pas le choc et disparaîtra. Mais 10 ans après, dans les années 40, la pénicilline apparaît comme un remède miracle et surtout peu coûteux. Mais au moment où les effets de la pénicilline sur la syphilis commencent à être largement admis par le corps médical pour les bénéfices spectaculaires qu'il procure, les médecins de Tuskegee décident de ne pas en faire profiter les sujets de leur expérience. Il s'agit de continuer à étudier la dégradation physique et mentale des Noirs et surtout de faire des autopsies après la mort pour documenter les effets de la maladie dans tous leurs aspects. Ce n'est qu'en 1966, c'est-à-dire 34 ans après le début de l'expérience, que des questions commencent à se poser dans l'administration de la santé publique américaine. L'enquêteur Peter Buxton, qui est un enquêteur, non pas de la police, mais de la santé publique aux États-Unis, avertit sa propre hiérarchie des manquements à l'éthique qu'il constate dans des documents qu'il découvre presque par hasard à propos de cette expérience. Or, pendant plusieurs années, la hiérarchie ne bouge pas. En réalité, ils admonestent l'enquêteur. Ils sont fiers de leur expérience et ils la présentent comme précieuse, comme un apport fondamental pour la science. Mais pourquoi ? Les effets de la syphilis sont déjà largement documentés dans la littérature scientifique. Il n'y a pas de mystère sur les effets abominables que cette maladie peut causer. Certes, mais en réalité, ce qu'on veut savoir, ce que l'administration de la santé publique américaine désire évaluer, c'est spécifiquement les effets de la syphilis chez les hommes noirs. Et plus précisément, comparer les effets de la syphilis chez les hommes noirs et les effets de la syphilis chez les hommes blancs. En effet, on pense que les hommes noirs sont des êtres corporels et non pas des êtres spirituels. En d'autres termes, on s'imagine que les effets physiques et génitaux de la syphilis vont prévaloir chez les hommes noirs, là où les effets mentaux de dégradation mentale, intellectuelle et psychiatrique sont les symptômes les plus courants chez les hommes blancs. C'est en tout cas l'hypothèse qu'on tente de tester, car les effets de la syphilis sont des effets extrêmement imprévisibles, qui peuvent toucher le corps comme l'esprit. En d'autres termes, le but de l'expérience était de prouver la bestialité des hommes noirs. Le but de cette expérience était d'établir scientifiquement l'infériorité des hommes noirs d'un point de vue intellectuel. Le scandale éclate dans la presse en 1972, c'est-à-dire 40 ans après les débuts de l'expérience, et y met un coup d'arrêt. Comment une telle abomination a-t-elle pu être possible ? Eh bien, il n'y avait aucun médecin dans le comté de Macon, ou presque aucun. L'équipe de Tuskegee se présentait comme des messies de la santé dans un absolu désert médical. L'administration américaine en a profité pour faire ce qu'elle voulait. La santé publique moderne vise à faire prospérer la population nationale. Dans le cas de l'expérience de Tuskegee, c'est tout l'inverse. On a laissé dépérir les hommes noirs. On a laissé Ces hommes noirs transmettre la syphilis à leurs partenaires. On les a laissés transmettre la syphilis à des générations puisque la maladie se transmet aux enfants. Et on a fait ça dans l'unique but de mettre à l'épreuve une vision du monde négrophobe de l'humain, de documenter la négrophobie. Le dossier sur cette expérience de Tuskegee est passé entre les mains de hauts fonctionnaires de la santé publique américaine et n'avait rien à redire. Ils considéraient l'expérience comme valable, ils considéraient l'expérience comme précieuse, ils considéraient l'expérience comme intellectuellement enrichissante. La question de la santé publique est épineuse pour les Noirs parce que ils ne sont pas la population à faire prospérer, mais celle dont les médecins blancs fantasment souvent la disparition. D'où la dimension intrinsèquement tragique du rapport des Noirs à la santé publique dans des pays à racines négrophobes. Parce qu'ils sont condamnés à ignorer lorsqu'ils sont face aux institutions de la médecine, ils sont condamnés à ignorer s'ils font partie de la population à soigner ou de la population à juguler au seul bénéfice des autres.
Kiki, 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 kiki.